tous et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Ah, cette fois-ci, je me suis pas trompé de jour.
Si j'ai bien compris, t'as cru que lundi on était dimanche, c'est ça?
C'est ça.
Si de Morren.
Salut à tous.
Et attention, on l'appelle le survivant du Grand Nord, c'est Mamie Ami.
Salut tout le monde.
Alors Mamie, ça se passe bien au Québec? Il fait pas trop froid?
Non, ça actuellement, en fait, là, il fait effectivement 30 à 32 degrés en ce moment.
Détente.
Ah bah écoute, nous, il fait 19 à Paris, donc...
Tu vois?
Comme quoi.
C'est-à-dire que la semaine dernière, j'étais malade, moi.
Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous reparlera de Next Die Survival. On enchaînera ensuite sur Grand Theft Auto Space. On parlera des Japonais sur Kickstarter, d'un projet qui s'appelle Yaki Castle. On vous parlera du Kickstarter de My Time at Portia. On enchaînera ensuite sur le Nintendo Direct avec plein d'annonces. Ouais. Nous évoquerons également les dessins d'Electronic Arts en ce qui concerne le jeu vidéo. Et enfin, nous terminerons par le review bombing qui commence à faire grincer certaines dents. Le review bombing, vous savez, qui est cette pratique qui consiste à mal noter un jeu sur Steam pour faire plier, n'est-ce pas, les développeurs. Allez, on va commencer, messieurs, donc, avec toi, Pixel, avec la nouvelle mise à jour de Next Day Survival dont tu nous avais parlé récemment.
Effectivement, la nouvelle mise à jour du jeu est sortie. J'avais dit la dernière fois qu'il y aurait une nouvelle map et des nouveaux flingues. Et c'est exactement ce qu'il y a. Une nouvelle map et des nouveaux flingues. Et pas grand chose d'autre à part...
Il n'y a pas eu d'optimisation technique peut-être
Pas d'optimisation technique de ce que j'ai vu pour l'instant. C'est que ça saccade toujours hein, sur mon PC. Donc
c'est toujours à la pisse bien
ouais,
de...
Ouais, voilà. En fait, c'est une zone côtière avec un port et deux phares d'ailleurs et un sous-marin échoué dans lequel on peut pas rentrer malheureusement. C'est juste là pour servir de décor ou peut-être qu'on pourra rentrer dans une future mise à jour. Je n'en sais rien pour l'instant. À part le port où ils ont fait quelque chose d'assez nouveau, en fait tout le reste c'est de la réutilisation d'assets.
Ah ok. Donc,
beaucoup d'économies hein, de. Ouais. Bah, c'est-à-dire que. Entre l'annonce de la mise à jour et la sortie de la mise à jour, il s'est passé assez peu de temps. Enfin, ils ont eu très peu de temps pour développer tout ça, quoi.
Donc, c'est de la variété pour pas cher, quoi.
Voilà, c'est de la variété pour pas cher. Et il y a très peu de verticalité, hein, comme sur la map principale.
C'est dommage, ça.
C'est dommage. Et je dois vous dire qu'au bout d'une vingtaine de minutes, je commençais déjà à m'emmerder. Sérieusement. Et j'ai tenu moins d'une heure. C'est-à-dire que... Au bout de 30-40 minutes,
peut-être qu'il serait plus judicieux d'espacer les mages pour faire des mises à jour plus conséquentes, en fait.
Des mises à jour plus conséquentes, peut-être un overhaul graphique, parce que là, graphiquement, rien n'a changé, c'est toujours aussi moche. Il va falloir le faire un jour, et puis les armes, au niveau des armes, ça n'a pas changé, t'as toujours l'impression de tirer avec des pistolets à billes, ce qui est dommage. Il y a aussi une nouveauté qui était très intéressante et qui était attendue par les joueurs et par moi aussi, c'est le fait de pouvoir, en fait, annuler les animations contextuelles quand tu cuisines ou quand tu bois de l'eau, quand tu manges, ce genre de choses. Avant, tu pouvais pas le faire. Et si tu faisais ça dans la nature et que tu te faisais attaquer par un loup, par exemple, t'étais obligé d'attendre que le mec finisse de boire ou de manger avant de pouvoir attaquer le loup. Donc c'était très con. Okay. Mais maintenant, tu peux annuler ça. Donc c'est très bien. Ouais. Mais c'est dommage. Hein. Enfin, comme je l'ai dit pour la présentation du jeu, il y a du gros potentiel. Mais on en est qu'au tout début du jeu et c'est peut-être qu'ils auraient dû attendre encore quelques mois avant de proposer le jeu en early access, en fait.
Bah, surtout qu'il y a des jeux en early access qui sont beaucoup plus avancés que ça. Donc, du coup, quand tu dois te démarquer des autres, c'est compliqué. Faut être un minimum polish, quoi, entre guillemets.
Surtout dans un genre qui est plutôt saturé en ce moment, quoi. Même si, effectivement, il apporte ses différences. Pour le commun des mortels qui va regarder sa bande-annonce ou ses photos, c'est un vulgaire jeu de survie, en fait.
Ça reste un vulgaire jeu de survie qui a très peu de choses sur lui à part son ambiance. Ouais. Le Stalker, bien entendu, son ambiance russe, on va dire. Et à part ça, il a très peu de choses pour lui, mais j'ai envie de dire, on peut lui accorder le fait qu'il n'en est qu'au début de son développement, que faut quand même lui laisser une chance. On verra dans les mois à venir s'il y a vraiment des choses intéressantes.
Bon, bah, Pixel, du coup, quand il y aura une mise à jour majeure, entre guillemets, dire
voilà,
tu nous...
J'en reparlerai.
Tu en reparleras, voilà. Bah, tu vas garder la parole, Pixel, et tu vas nous parler d'un mode qui a l'air gros, n'est-ce pas ? C'est Grand Theft Auto Space.
Voilà, c'est un nouveau mode qui est disponible au moment où vous écouterez cette émission. C'est Grand Theft Auto Space, c'est un mode solo pour GTA V. Et des vidéos du trailer officiel qui est sorti et qui est visible, hein, on mettra le lien, bien entendu. Habitude. Le trailer envoie du lourd, mais c'est un trailer. Et c'est comme Hollywood, où ils vous montrent tout le film dans le trailer avec des explosions partout. C'est un peu un sucre candy. Puis, tu sais, une fois que tu joues au jeu, bah, t'enlèves l'emballage, puis il reste plus... bah, c'est moins reluisant.
C'est moins sexy. Le découverte voilà. Est pas génial aussi. Hein.
Voilà, c'est que j'ai regardé une vidéo de gameplay du jeu et enfin du mode plutôt, et c'est moins spectaculaire que le trailer, bien entendu quoi.
Bah du coup, en quoi ça consiste ce mode en fait ?
Parce que là, je t'avoue que le principe est nébuleux pour moi en fait.
Voilà, parce que Grand Theft Auto Space te permet en fait de quitter le solo de, j'ai envie de dire, la Terre de GTA V et d'aller naviguer dans l'espace avec une navette spatiale. Moi, je croyais que ça allait être scénarisé, mais en fait, c'est extrêmement peu scénarisé. Il y a des scripts où il y a des ennemis qui vont apparaître parce que tu, enfin, en fait, tu quittes la Terre et tu quittes pas la Terre tout de suite. T'as quelques missions, en fait, pour récupérer des informations et ensuite tu vas pouvoir aller, sur le pas de lancement de la fusée, aller dans la fusée et puis décoller, quoi. Et une fois que t'es dans l'espace, tu peux tourner autour de la Terre, assez rapidement d'ailleurs, donc c'est pas très très réaliste, mais ça, on est dans un jeu vidéo, donc j'accepte. Tu peux tourner autour de la Terre, tu peux aller sur la Lune, si j'ai bien compris. Tu peux aussi aller sur Mars. Il y a un peu de gameplay sur Mars, où tu peux emprunter une espèce de petit buggy de l'espace, où tu peux rouler sur la planète Mars. Il y a des extraterrestres hein, sur la planète Mars, tu peux leur tirer dessus. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. En fait,
bah, en fait j'ai l'impression que c'est plus une démonstration technique, entre guillemets, la base d'un truc, quoi, si tu veux.
Voilà, et c'est assez open source, j'ai envie de dire, parce que les autres développeurs de mode de GTA vont pouvoir rajouter ce qu'ils veulent dessus.
Donc, ouais, c'est ce que j'avais lu apparemment. Planètes, pour l'auteur, l'objectif, c'est vraiment de mettre à disposition une nouvelle façon de jouer à GTA 5 entre guillemets et qui veut ajouter des nouveaux scripts, des nouveaux trucs peut le faire, il y a pas de souci apparemment.
D'accord.
Ouais. Ce qui est bien parce qu'avec GTA 5 enfin pas avec GTA mais je veux dire là on a une occasion de faire autre chose dans GTA que de...
Ouais, d'aller plus loin.
Voilà, on peut aller vraiment plus loin que de rester à Los Santos et tirer sur tout ce qui bouge. Là, on peut tirer sur des planètes
on peut tirer sur tout ce qui vole maintenant.
Ça serait bien que quelqu'un rajoute d'autres planètes du système solaire, voire même d'autres systèmes solaires où on pourrait aller, où emprunter des trous de verre, ce genre de choses. En fait, les possibilités sont infinies.
J'ai l'impression que tu me parles de No Man's Sky, là. Les possibilités
voilà,
sont infinies.
Au moins, Grand Theft Auto Space, c'est gratuit. donc, pour résumer, bon, c'est pas l'extase sur le plan du gameplay pour le moment, mais c'est prometteur. Il faudra le surveiller, encore une fois, pour voir ce que la communauté fera avec ses nouvelles possibilités, tout simplement.
Ouais, ouais.
Et plus on en parle, plus de gens s'intéressent au truc, et donc faites passer le mot.
Voilà. Si vous avez GTA 5 sur PC, c'est gratuit, vous pouvez télécharger, l'installer, ça mange pas de pain.
Comme quoi, hein, Rockstar, c'est utile hein, de laisser les gens modder votre jeu comme ça.
C'est plutôt à Take-Two qu'il fallait dire ça, d'ailleurs. Parce que Rockstar, ils étaient moyens.
C'est vrai que, pour le coup, je suis injuste. Rockstar a fait ce qu'il fallait pour remettre les choses en ordre, on va dire. Et c'était Take-Two qui a fait foutu la merde. Voilà. Pixel, toujours, décidément. Cette fois, tu vas nous parler des Japonais qui débarquent sur Kickstarter.
Voilà. Donc, si vous aimez les jeux obscurs à base d'écolières japonaises et de tentacules...
Tout de suite, les préjugés, hein, évidemment.
Oh, voilà, bah vous allez pouvoir vous faire plaisir, entre guillemets. Enfin, vous faites ce que vous voulez dans votre coin.
Je tiens quand même à m'inscrire en faux, hein, parce que jusqu'à maintenant, les projets japonais qu'on a eu sur Kickstarter, généralement, c'est plutôt du gaming classique. Alors après, il y a des adaptations de visual novels, et encore, c'est pas des visual novels porn, hein, en général, hein, donc voilà.
Ouais. Sauf que maintenant que Kickstarter est officiellement disponible au Japon, avec des comptes japonais, et payable en yens...
Ouais, c'est ça, surtout.
Voilà,
c'est ça qui est intéressant
pour les Japonais. On va enfin voir à quoi ressemble la scène indépendante japonaise et on va voir certainement des projets extrêmement obscurs ou extrêmement caricaturaux
ou extrêmement bizarres surtout.
Extrêmement bizarres donc
ou extrêmement bien.
Ou extrêmement bien aussi.
Bah, cela dit, je tiens à noter que tous les qualificatifs qu'a utilisé Pixel n'entrent pas en contradiction avec extrêmement bien. Hein. On peut être bizarre et être très bien.
On peut être bizarre et être très bien. Et voilà, Kickstarter est disponible au Japon, c'est officiel, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, faudra attendre les...
Disons que c'est une bonne nouvelle parce que les Japonais, ils ont un peu la double peine, c'est-à-dire que, déjà, vous le savez, les Japonais, bon, c'est peut-être un peu cliché de le dire, mais c'est un fait.
Non, ils sont nuls en anglais, il faut le dire.
Ils sont vraiment nuls. Voilà, ils sont à peu près aussi bons que nous, c'est dire.
Ouais. Non, ils sont plus nuls, ils sont encore plus nuls.
Et en plus... Ils avaient cette histoire du... Alors, on peut pas lancer un projet au Japon. Il faut qu'il y ait une boîte aux États-Unis qui récolte les fonds, qui va prendre sa commission là-dessus, en plus de la commission Kickstarter, en plus des taxes qu'ils vont avoir quand ils vont rapatrier l'argent. Bref, ils étaient pas gâtés, quoi. Donc, le fait qu'ils puissent au moins rapatrier tout l'argent, déjà... c'est pas mal. Reste que, quand même, ils auront ce désavantage, à mon avis, par rapport à d'autres studios, qui est que en général, ils passent par une boîte en Occident pour gérer le Kickstarter. Mmh. Voilà. Au moins, ça fera ça de moins qui sera sur la facture des studios japonais, quoi. Donc, on surveillera ça de près. Moi, je suis très curieux. Vous savez, j'aime les jeux japonais. Donc, très, très curieux de voir ce que va donner la scène indépendante japonaise. Bah, d'ailleurs, justement, à propos de scène indépendante japonaise, on va vous parler maintenant d'un projet... pas Kickstarter du tout, hein, mais qui a été annoncé cette semaine. Ce projet, c'est Hiyaki Castle. Alors, Hiyaki Castle, qu'est-ce que c'est? C'est un dungeon crawler, comme savent très bien le faire les Japonais. Hein. Ça, c'est pas vraiment une surprise, parce que les Japonais, ils sont très friands des dungeon crawlers. Ils ont plein de jeux dans ce style-là. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ce projet est exclusif au PC et à Steam. Et ça, c'est du jamais vu. Mmh. Moi, ce que j'ai trouvé cool sur ce projet, c'est que déjà, tu vas pouvoir utiliser les pièges de l'environnement contre les ennemis. Et surtout, tu peux splitter ton équipe en deux. Et par exemple, t'as deux de tes persos qui attaquent un ennemi pour qu'il se tourne vers eux. Et ton autre équipe, elle prend l'ennemi à revers. Et ça ajoute un aspect stratégique qui est assez intéressant. Alors attention, le jeu est en temps réel, je sais, c'est important de le préciser, parce que parmi les adeptes de Dungeon Crawler, il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment le tour par tour et ceux qui aiment le temps réel, et ces deux écoles en général ne s'entendent pas du tout. Donc désolé pour ceux qui aiment le tour par tour, mais c'est du temps réel, mais je trouve que c'est pas mal quand même, parce que ça va te pousser à timer tes attaques, etc. Et le choix donc du temps réel me paraît intéressant. Bref, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs, mais moi, en tout cas, je trouve le projet très très intéressant.
Ouais, c'est intéressant, parce que le Dungeon Crawler, ça donne toujours l'impression que ça bouge pas trop, que c'est très... c'est une vraie formule, le Dungeon Crawler, et au final, qu'ils essaient d'apporter leur petit grain de sel, ça ne peut qu'être bénéfique.
Alors honnêtement, je sais pas si la feature de splitter ton équipe, etc., elle est nouvelle, hein, je connais pas assez le genre pour m'exprimer là-dessus, mais en tout cas, ça doit être suffisamment rare pour que, c'est pas très courant, quoi, on va dire. Bon, on va enchaîner, messieurs, sur un projet Kickstarter. Alors là, je vous préviens, je risque de parler un petit moment.
Ne pas s'étendre sur le sujet, merci. Hein. Il y a ça une s'appelle... petite annotation, c'est pas pour
oui,
rien.
Oui, je sais, c'est même moi qui demandais de la mettre, mais ça va être difficile. ce projet, c'est My Time at Portia. Alors, je pourrais aussi l'appeler le jeu pour Ben, n'est-ce pas? parce qu'il se trouve que c'est un nouveau venu dans la famille des Harvest Moon et autres Stardew Valley, n'est-ce pas? Dans My Time at Portia, vous jouez un jeune garçon qui a complètement été largué par son père. En plus, il lui a laissé une lettre, tu vois, très classe. Bon, mon fils, je suis désolé, je suis peut-être pas le père que tu voudrais et tout. À partir de maintenant, tu vas te démerder, tu vas aller sur cette île là qui est au bord du monde, de la civilisation, et tu vas aller reprendre mon vieil atelier. Tu vas le remettre en état et tu vas te démerder. Salut. Voilà, c'est très élégant. Merci, papa. Et comme dans Stardew Valley et Harvest Moon, vous allez devoir gérer votre atelier, vous allez devoir rendre des services locaux, vous allez pouvoir vous marier, etc. Et, ma foi, écoutez, Il y a une démo qui est disponible, c'est un projet Kickstarter qui demande 100 000 dollars, il y a 33 000, il reste 23 jours. J'ai testé la démo pour vous hier, j'ai commencé à, je crois, 14-15 heures, et j'ai terminé vers 1h, 2h du matin. Voilà. J'ai pas vu le temps passer. Ce jeu m'a absorbé, et pourtant Dieu sait qu'au départ j'étais dubitatif, parce que moi le côté, tu sais, tu vas te marier, machin, bidule, c'est pas forcément ma cam, quoi, on va dire. Ouais. Mais là, je sais pas, ce jeu, il avait ce petit supplément d'âme, on va dire, qui m'a attiré. C'est-à-dire que honnêtement, il fait rien de très original. Je tiens à préciser d'ailleurs pour ceux qui apprécient Harvest Moon et Stardew Valley que l'aspect ferme est très secondaire. Apparemment, on va pouvoir faire des plantations, etc. Mais c'est surtout l'aspect construction d'objets. Par exemple, tu peux construire des voitures, etc. En gros, les villageois viennent te passer des commandes. Il y a un système de concurrence entre ateliers, c'est-à-dire qu'il y a 5 ateliers dans Maltem at Portia. Et en gros, à chaque fin de mois, tu as un classement des meilleurs ateliers et tout. Et en gros, le but, c'est d'être le meilleur atelier. À chaque fois que tu prends une requête d'un villageois, tu as un délai pour remplir cette requête. Donc, si tu prends plusieurs requêtes en même temps, il faut que tu gères bien ton truc et tout. Bref, franchement, c'est plutôt bien foutu, mais ça révolutionne pas du tout la formule. Mais là où My Time at Portia m'a attiré, c'est déjà sa patte graphique, mais surtout son univers. C'est-à-dire que je me suis rendu compte d'un truc, parce que j'avais pas lu le Kickstarter, en fait, avant de me lancer dedans. C'est que c'est du post-apo. Alors, post-apo, entendons bien, avec une civilisation qui est déjà sur pied, entre guillemets, quoi. Il y a eu l'apocalypse, ils s'en sortent plutôt bien et tout. Et ce qui s'est passé, et que j'ai trouvé très intelligent dans ce jeu, c'est la narration. C'est-à-dire que à un moment donné, j'arrive dans le village, je passe par la porte d'entrée principale, et là, je vois une marée de PNJ qui bougent tous ensemble et qui vont à un endroit. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est bizarre, tous ces PNJ qui se déplacent en même temps. Je précise que les PNJ ont leur emploi du temps et tout. Donc, s'ils vont tous à un endroit, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et donc, je me mets à les suivre. Et là, je me rends compte qu'ils vont à l'église. Et là, j'entre dans l'église et je vois un espèce de prêtre babacool qui explique à ses ouailles que la technologie, c'est mal, que rappelez-vous la technologie, tout le mal qu'elle nous a fait, la merde dans laquelle elle nous a mis et tout. Faites attention à la technologie, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, tout ça. Et je me dis, ah, c'est intéressant. Et puis là, je continue à me balader et je tombe sur un centre de recherche. Et il y a la nana du centre de recherche qui dit ouais, enfin franchement, ces gens de l'église, qu'est-ce qui nous saoule et tout, toujours fermés d'esprit, etc. Et en fait, ça installe une narration et un background que je découvre moi-même, et j'ai trouvé ça très intelligent, et aussi d'un point de vue level design, parce que les villageois, quand ils vont à leur église, ils sont obligés de passer par la place du village, et la place du village, je vous le donne dans le mille, c'est là où il y a l'entrée du village, en fait, et c'est là où arrive le joueur à chaque fois qu'il va au village. Et donc, ça a été fait exprès, j'en suis sûr, j'en mets ma main à couper par les designers. T'as tous les villageois qui arrivent en même temps sur cette place et qui grimpent jusqu'à l'église, et le joueur, il peut pas le louper, en fait. D'un point de vue design, narration, etc., j'ai trouvé ça super cool, super intéressant. Ça m'a installé un univers, une ambiance. En plus, à côté de ça, il y a un côté exploration, c'est-à-dire que t'as des ruines anciennes, etc., que tu vas pouvoir explorer, où il y a des ennemis. Alors ça, j'ai pas pu y accéder, ce contenu-là, c'est un contenu qui sera disponible plus tard. C'est-à-dire que, en gros, ce sera des espèces de donjons générés procéduralement, où il y aura des phases de plateforme, etc. Apparemment, il y aura une zone, ça sera une espèce de Wasteland que tu pourras explorer aussi, qui sera un peu plus ouverte. La seule ruine à laquelle tu avais accès, c'était la ruine, en gros, où tu vas récolter tes matériaux, c'est-à-dire ton minerai, etc., pour crafter des trucs. Là, en gros, c'est une zone où t'as un espèce de détecteur, où tu vas devoir chercher des reliques, des artefacts, tu vas creuser, en même temps tu vas récupérer des minerais, etc. Les reliques que tu vas trouver, elles vont te servir pour crafter certains objets, où tu vas pouvoir les revendre. Franchement, c'est un jeu qui marche super bien. Vous savez que moi, en général, je suis allergique aux jeux où il y a du craft, etc. Ouais. Mais là, justement, je trouvais qu'il y avait une petite carotte niveau lore qui fonctionnait très bien. Et du coup, en fait, j'avais juste envie d'explorer et de découvrir l'univers, quoi. Alors, honnêtement, le système de combat, il est un peu simpliste, il est pas terrible, mais globalement, le jeu fonctionne très bien et j'ai passé un super moment. Voilà.
Et ben, ça a l'air bien tout ça. Et plus un pour l'univers, hein. Je trouve que c'est très, très, très joli. Et ça donne envie de s'y plonger.
Alors, je précise, le jeu est en 3D.
Ouais.
C'est pas un jeu en 2D, pixel art, machin, c'est de la vraie 3D. C'est très propre, ça tourne super bien. J'ai été étonné par la qualité de la démo. Alors, il y a quelques bugs. Hein. Le jeu est loin d'être parfait. C'est une alpha, je tiens à le préciser. Donc, si vous voulez essayer la démo qui est dispo sur Distant Passer, sur itch.io et sur Steam, c'est un projet chinois. Donc, il y a certains éléments d'interface qui sont pas traduits, mais quasiment tout est traduit. C'est déjà pas mal. Il y a des petits bugs, genre mon perso, je me suis rendu compte que c'était Jésus, c'est-à-dire qu'il marche sur l'eau, parce qu'à un moment donné, t'as une fontaine sur la place du village, en fait, et je me suis rendu compte que le perso ne touchait pas le fond de la fontaine, il marchait sur l'eau carrément. Et je pense que la nage n'est pas implémentée dans le jeu, parce que quand tu t'approches de l'eau, enfin parce qu'il y a des cours de rivière, etc., et que t'essaies d'aller dans l'eau, en fait, le jeu te re-téléporte sur la rive. Donc à mon avis, la nage ne doit pas être implémentée pour le moment dans le jeu. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que tout ce qui est agenda des PNJ, c'est déjà implémenté, par exemple. Pour une alpha, c'est très avancé. J'ai été vraiment très, très, très étonné. Aussi, l'interface par moment peut être agaçante. Le pad est pas totalement pris en charge, c'est-à-dire que tu peux te déplacer avec le pad. Mais par contre, tout ce qui est dialogue, etc., je sais pas pourquoi le pad ne fonctionne pas. Donc, il faudra y jouer au clavier, je vous le dis tout de suite. Le pad, pour le moment, n'est pas 100% pris en charge, et c'est pas parce que j'ai un pad exotique, hein. Moi j'ai un pad Xbox One. Donc voilà. Mais dans tous les cas, très impressionné par cette démo, c'est très propre. Si tous les projets Kickstarter pouvaient avoir ça, ça serait bien. Et j'espère qu'ils seront financés, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu que je prendrai à la release, parce que je suis très attiré par l'univers, en fait. C'est surtout ça. Parce que honnêtement, le concept, je veux dire, c'est pas la révolution, quoi.
Ah bah non.
Vous avez joué à Stardew Valley, vous savez à quoi vous avez affaire. Sauf que là, contrairement à Stardew Valley, c'est moins fermier et plus je gère mon atelier, etc. Quoi. Voilà. Allez, c'est parti. On enchaîne donc, mon cher Mordren. Et il y aura des morceaux de Mamie Lemine, non, n'est-ce pas? Avec le Nintendo Direct.
Ouais, un Nintendo Direct. Premier Nintendo Direct de septembre, il me semble. Qui a duré 3/4 d'heure. Donc, c'était pas rien. Hein. En général, les Nintendo Direct sont aux alentours de 20 minutes, une demi-heure. Parce qu'il y avait pas mal de choses à présenter. Et il y avait des gros morceaux, hein, notamment, je crois qu'il y a eu 10-15 minutes consacrées à Mario Odyssey. Je vais pas vraiment revenir dessus, en dehors du fait qu'ils ont évidemment annoncé un bundle avec la Switch plus Super Mario Odyssey.
Qui coûte un bras d'ailleurs.
Ouais, la semaine dernière, je vous parlais, je disais à Thierry que j'attendais l'annonce de ce bundle pour craquer. Sauf qu'en fait, il est à 400 balles, donc ça sera sans moi. du coup, je me suis débrouillé par mes propres moyens et j'ai pris un autre bundle pour la Switch. Et donc,
ouais, c'est ce que j'allais dire, sans moi, oui, enfin, sans toi, voilà. Sur le bundle, quoi.
Voilà, sans moi pour le bundle, puisque bon, ça y est, ma Switch est arrivée chez moi et je kiffe. Donc voilà, 400 euros chez Amazon, il est pas impossible que ça baisse un petit peu, mais pour l'instant j'ai vu les prix osciller entre 380 et 400 euros. Il est probable que bon, les distributeurs se battent au niveau du prix sur ce bundle, mais voilà, pour l'instant j'ai trouvé que c'était trop cher.
Cela dit, si c'est comme d'habitude avec Nintendo, avec des stocks au ras des pâquerettes...
Ouais, ben là voilà. Pour le coup, c'est un bundle Switch avec Super Mario Odyssey, je pense qu'il y aura quand même de la dispo. Parce que c'est quand même le bundle qu'ils ont envie de mettre sous le sapin. On va pas se mentir. Voilà. Sinon, on va parler un petit peu éditeur tiers, puisque Bethesda a décidé de s'énerver un tout petit poil, hein, quand même, sur Switch, puisque, bon, évidemment, on connaissait Skyrim, qui n'est pas la définitive édition. Hein. Skyrim, tout court, arrive sur Switch. On connaît la date de sortie, c'est le 17 novembre.
Ouais, pour les trois pèlerins qui n'ont pas encore joué, voilà.
Voilà, ou pour les trois pèlerins qui auraient envie d'y jouer en mode portable. Voilà.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi pas, on rappelle... En tout cas, il n'y a pas du tout été question d'un portage, on va dire, de tout ce qui est modding, puisque ça existe sur Xbox One et sur PS4. Il y a des outils de modding sur Skyrim, mais ça, bon, ils en ont pas parlé sur Switch et ça m'étonnerait qu'il y en ait. Au-delà de ça, news un peu plus intéressante quand même, Doom a été annoncé fin 2017 sur Switch. Je sais pas si ça vous intéresse, vous.
Ben,
vous
en
y avez
cas,
sans doute déjà joué sur PC,
pas
mais bon.
Pour jouer au jeu, mais plutôt, je suis intéressé de voir la performance du truc.
Exactement.
Est-ce que ça tourne de manière fluide? Est-ce que les mecs chez ID Software sont suffisamment bons pour arriver à avoir un rendu qui soit pas dégueulasse, mais qui tourne bien sur une Switch? Et s'ils y arrivent, chapeau bas.
Alors, a priori, il y a eu des petites comparaisons vidéo qui ont été faites entre la PS4 et la Switch, déjà. Bon, c'est clairement moins propre sur Switch, hein.
Bah déjà les textures c'est pas les mêmes.
Hein, voilà. Donc t'as une espèce d'effet de blur en fait, un petit peu étonnant. Enfin étonnant, pas vraiment, mais
ça masque plus de détails on va dire.
Ouais, ce qui m'intéresse en fait dans cette histoire, c'est donc tu parlais de performance, performance in-game bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse c'est les performances commerciales de ce jeu. Parce que, à l'heure actuelle, en fait, le catalogue de la Switch est certes un peu étoffé, mais il y a une espèce de néant au niveau des jeux qui sont PEGI 18. Et ça m'intéresse de voir comment Doom performe en termes d'unités vendues, pour voir un petit peu si les éditeurs tiers ont une base aussi sur Switch pour sortir des jeux, on va dire, matures, entre guillemets. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Bethesda se fait un petit peu le navire amiral de ce genre de test, puisqu'ils ont également annoncé la sortie de Wolfenstein 2 pour 2018 sur Switch
donc là,
également.
Pour le coup, c'est pas une licence qui est sortie il y a un an sur PC, c'est vraiment c'est une licence qui toute neuve là. Donc
on rappelle que ça sort donc en octobre ou en novembre, je sais plus, donc fin d'année sur PC, Xbox One et PS4. Donc là vraiment, il y a une volonté de la part de Bethesda de prendre les parts du public mature sur Switch, donc c'est intéressant à surveiller. Parlons un petit peu de Dragon Quest Builders, alors pour le coup on passe du côté PEGI 18 au côté tout public, c'est prévu pour le printemps 2018, je sais pas s'il y a grand chose à raconter de plus dessus.
Ben si ce n'est que c'est le jeu idéal pour ce support là.
Ouais.
Et là où je trouve cette annonce intéressante, c'est que du coup ça veut dire que ce n'est pas une exclu PS4. Et du coup, peut-être qu'on l'aura sur PC.
Eh oui.
Je sais, je ramène toujours tout au PC, mais que vous.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant, oui, c'est intéressant à noter. On va revenir sur les exclusivités du catalogue Nintendo Switch, parce que bon, là, j'ai choisi d'occulter totalement tout ce qui a été annoncé sur 3DS, parce que c'était pas très enthousiasmant quand même. Mais parlons toujours de la Switch avec une sortie d'importance, c'est le 1er décembre, c'est Xenoblade Chronicles 2. Là, pour le coup, j'avais envie de donner la parole à Tyran, toi qui connais bien la licence. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 10 petites minutes?
Mon cher Morren. Parce que, en fait, ils ont compris ce qui fait le charme de Xenoblade. C'est les notions d'échelle. C'est le dépaysement. C'est vraiment ça qui fait que tu joues à Xenoblade. Et là, en voyant ces vidéos, je crois que c'est 8 minutes,
ouais.
J'étais dedans, quoi. Ils m'ont fait voyager. S'il y a un jeu qui peut me faire craquer pour une Switch, c'est celui-là, personnellement.
J'ai rêvé où le design des personnages a un petit peu changé également par rapport au précédent.
Non, c'est surtout que ils ont montré plus de personnages, j'ai l'impression. D'accord. Parce que le héros, il a toujours la même tête de con. Hein, donc bon, après, le chara-design, ça a jamais été le fort, hein, de toute façon, hein, donc Xenoblade. Mais je trouve que c'est le plus réussi de la série, mais en même temps, c'est pas un bel exploit, parce que la série, le chara-design, surtout celui de X, voilà.
Ouais. Bon, je t'avoue que le truc qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est d'entendre un dragon te parler avec un accent british parfait. Je fais, hein, c'est quand même bizarre, hein. Bref, mais bon, à savoir d'ailleurs qu'ils ont annoncé une manette pro édition limitée Xenoblade Chronicles 2 pour les collectionneurs. Et on va terminer avec un joli morceau qui s'appelle Project Octopath Traveler, qui est un JRPG avec une patte artistique assez originale qu'ils ont baptisé HD2D. Donc c'est très bizarre, mais en fait, vous avez des personnages qui sont en fait représentés par des sprites en 2D, et tout autour, en fait, vous avez, je sais pas comment décrire ça.
C'est un peu comme si vous aviez un espèce de Paper Mario, mais en pixel art, quoi. Si
ouais, c'est un rendu 2D sur un univers qui est en fait en 3D, en relief, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc intéressant, évidemment, visuellement, peut-être d'ailleurs même déroutant pour certains.
Bah, faut adhérer quand même à la démarche, hein. Mais voilà. Au moins, ça a de la gueule.
Ça a de la gueule. Et puis, en termes d'histoire, parce qu'on parle d'un RPG, donc ça s'appelle Octopath, Octo 8. On a le choix d'incarner au début du jeu 8 voyageurs, qui ont chacun, évidemment, leur histoire spécifique. Il y a une démo qui est sortie en même temps que le Nintendo Direct, qui nous fait tester en fait 2 personnages différents, et donc qui nous apprend un petit peu leur background. Le premier s'appelle Olberic Eisenberg, c'est un ancien chevalier, et la deuxième, c'est Primrose Azelart, qui est une danseuse, et ça permet, du coup, de connaître un petit peu leur background et de se familiariser avec l'univers. Donc, Mamie a commencé la démo, donc oui. Je voulais te donner la parole sur, savoir ce que t'en avais pensé de tout ce petit Beans qui sort en 2018, je le rappelle.
Bah écoute, ce que j'en ai pensé, alors pour savoir, oui, du coup j'ai joué à cette démo, j'ai fait que un peu moins de la moitié, je dirais. Parce que ça a l'air quand même que j'ai bientôt fini Olberic. Le côté déroutant de la HD2D, on s'y fait assez vite, puis c'est beau. C'est vraiment beau. Ouais, c'est une belle direction. C'est...
Demande de précision, mamie. Tu y as joué sur grand écran ou sur l'écran de la Switch?
Quand je joue à un jeu Switch, je fais toujours un peu des deux pour voir. Même si je finis quand même plus souvent par jouer en handheld qu'en écran. Là. Parce que mine de rien, elle est quand même plus ou moins pensée pour ça, je pense, la console.
Je t'avouerais que personnellement, sur grand écran, je sais pas, je trouve que les pixels sont un peu trop cracra.
Avec le flou, en fait, t'oublies très vite que c'est du pixel. T'as vraiment l'impression de jouer à, comment dire, le pixel next gen. C'est vraiment cet effet que ça fait. C'est, ah oui, c'est pixel art, mais aujourd'hui dans le futur, quoi, par rapport à des jeux qui sont sortis dans notre plus tendre jeunesse. Donc ça, c'est le point de vue graphique, etc. La musique, magnifique. C'est du Square Enix, hein, ils savent y faire.
Je crois que c'est les directeurs de Bravely Default qui sont à la manœuvre.
Oui,
sur
c'est
le...
ça.
Voilà.
D'ailleurs, le lien avec Bravely Default se voit sur plusieurs points, notamment le système de combat dont j'avais envie de parler, parce que du coup, qui dit jeu Square Enix avec une nouvelle licence, dit nouveau système de combat, plus ou moins. Alors c'est un système qui pourrait être profond, on va dire. Un système très simple, hein, qui est de points d'exaltation, ça s'appelle. C'est en gros, chaque tour, vous gagnez un point d'exaltation, jusqu'à un maximum de 5, si je dis pas de bêtises. À n'importe quel tour, vous pouvez décider d'appuyer sur la touche R de la Switch jusqu'à 4 fois pour booster la prochaine action que vous allez faire. Donc ça peut être, au lieu de faire une attaque, vous en faites 2, 3, 4 ou 5, et ainsi de suite. Et pour l'instant, pour la tester, donc pour savoir, si vous posez la question, j'y ai joué à peu près une heure, hein, ça fait peur, tout en étant intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, pour les combats contre des trash mobs, là, enfin des petits combats, vous allez très vite rentrer dans une boucle, parce que, j'ai oublié de vous dire aussi, les ennemis ont des faiblesses et des points de défense, en gros, et si vous tapez dans la faiblesse d'un ennemi, les points de défense vont descendre, et quand ils descendent à zéro, les ennemis vont perdre un tour, un peu à la Persona. Le problème, c'est que très vite, sur les ennemis faibles, qui ont un seul point de défense, une fois que vous avez trouvé la faiblesse, vous allez taper dans la faiblesse de l'un, comme ça il va pas taper au prochain tour, et ensuite, dès le deuxième tour, vous allez rentrer dans la fameuse boucle. C'est-à-dire qu'en gros, le deuxième tour, comme il était étourdi, il pourra pas vous taper, vous tapez le deuxième qui peut pas vous taper parce que vous aviez l'initiative, puis le tour suivant, vous allez taper celui qui était plus étourdi, et celui qui était étourdi pourra pas vous taper, vous voyez le problème. Aucun challenge est là.
Oui, au final, jamais il tape en fait, les gars.
Bah, ce qui est pas gênant, parce que très vite, vous allez être à plus de deux ennemis. Mais c'est surtout, en fait, ce système de... Je récupère des points d'exaltation, puis au bout d'un moment, je balance un truc bourrin. Et après, en fait, ça lance une espèce de comportement chez le joueur qui va être... Je stack en défense. Boum, 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 je tape. Je stack.
Ça devient routinier, quoi.
Et ouais, j'ai peur que ça devienne très routinier. Cela dit, j'ai fait un boss, là, où ça devient extrêmement intéressant, parce que du coup... Comme le système a l'air plutôt simpliste, et puis l'est plus ou moins comparé à des jeux comme Grandia ou d'autres RPG un peu plus péchus au niveau système, là, eh ben, ils se permettent de foutre des mecs bourrins en face très vite. À l'ancienne. C'était un truc qui se perdait un peu. Alors, on parle pas des personnages, parce que les personnages, ce sont des psychopathes.
Joue pas à Digital Devil Saga Shin Megami Tensei, mamie, hein. Parce
oui,
que
bah,
Persona,
voilà.
C'est un petit enfant à côté, hein.
Et, on va dire pour le RPG japonais, entre guillemets, plus mainstream. J'ai l'impression, ces dernières années, qu'ils avaient abandonné un peu l'effet boss de fin où il va falloir farmer pour péter tout ça. Là, j'ai vraiment l'impression que ça revient. Mais là où je trouve le système intelligent, c'est que même si tu sens que t'es pas à la hauteur, bah tu peux te démerder quand même avec les objets, avec le système de break et le système de méga coup, là, de battre le boss. Et du coup, ça rentre dans une espèce de danse où tu gères toi-même ton rythme. C'est une grosse gestion du risk-reward. Qui est hyper intéressante. Donc, comme je disais, c'est un RPG classique. Le seul petit bémol, c'est qu'au début, on a un peu de mal à naviguer. Dans le sens où la HD2D, il faut s'y faire. Moi, je vois du pixel art comme ça, tout de suite, c'est FF6. Quand j'appuie haut, il va monter à l'écran. Tandis que là, non, il va aller en semi-profondeur. Du coup, ça peut être un peu... Voilà.
Bah, c'est perturbant, t'as pas l'habitude de ça.
Ah, je pense que oui, c'est... effectivement. Mais on s'y fait assez vite. Le vrai système intéressant, le dernier, vous inquiétez pas, c'est court, c'est le système d'action spéciale des personnages. Donc moi, j'ai fait Olberic, j'ai pas joué Primrose. Olberic, du coup, ce qu'il peut faire, c'est n'importe qui le provoque en duel. c'est plutôt bien foutu parce que ça compte comme un combat avec du gain d'XP à la fin et parfois même des gains d'objets. Donc tu vois n'importe quel PNJ et tu fais ah viens on saute dessus et le gars va dire ok c'est parti et du coup c'est un combat contre ce perso là. Là où je trouve le système vraiment cool et intéressant, c'est qu'à la sortie de ce combat, si jamais vous battez le PNJ, il va être au sol. Mais surtout, il va être déplacé d'une case sur le côté par rapport à là où il est. Il n'y a pas de case dans le jeu, hein, c'est juste pour vous, voilà.
Oui.
Par exemple, je me suis amusé à tester le truc, petite anecdote. Donc, il y a le vieux chef du village. Et je me suis dit, non, on va quand même, si, on peut provoquer le vieux chef du village, qui se bat quand même vachement mieux que n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Qui est pas très fort, mais qui résiste pas mal, le vieux. Et à la fin, il fait, ah, merci et tout, puis il tombe dans les pommes à côté de la porte, et du coup, il donne accès à sa maison. Et du coup, je pense que ça va amener tout un comportement intéressant de, oula, il y a quoi derrière et tout, de vouloir les friter le truc.
Il y a quelque chose de caché, là.
Ouais, c'est ça. Et, très rapidement, je l'ai pas testé, mais juste pour le dire, parce que ça n'a pas été dit, Primrose, par exemple, ça a été montré dans les vidéos. Elle, c'est encore, je pense, encore mieux. Comme c'est une danseuse de charme, elle peut séduire n'importe qui, je crois. Pour la suivre. Et là où c'est encore plus intéressant et où j'ai hâte de voir ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu à la Pokémon. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs que t'as séduits en combat, tu peux les appeler pour qu'ils viennent t'aider. Bon, chaque personnage ne commence pas dans la même zone. Moi, j'aurais bien aimé voir si je pouvais séduire le vieux pour le ramener en combat contre le boss à la fin. Mais voilà, ça, je pense que ça peut permettre tout un tas de choses intéressantes. Et comme le disait Mordrain, ils sont 8 et là, on a que 2 trucs. Et je pense que si les 8 sont aussi bien travaillés, je vous raconte pas les heures de jeu, parce que encore une fois, c'est une démo. J'ai fait qu'un personnage que j'ai pas encore fini, et j'en suis déjà à 1 heure. Ça promet.
Bon, par contre, à mon avis, le jeu, on l'aura pas tout de suite, hein, parce que le fait que ils aient même pas encore trouvé de titre.
Oui, c'est vrai.
Oui. Pour le jeu, c'est que ils doivent être encore en train de faire pas mal de choses, hein.
Exactement. Donc, ils ont évoqué, donc, une date de sortie pour 2018, sans précision sur la timeline. Donc, ça peut très bien arriver fin 2018. Et, c'est une exclusivité Switch.
Bon, après, comme d'habitude, un peu saoulé par les exclusivités artificielles, comme ça, parce que ça m'étonnerait que Nintendo ait financé le projet à la base, mais bon.
C'est toujours mieux qu'une exclue temporaire. Hein.
Oui.
Pour ce qui me concerne, c'est pire, mais...
Non, moi, ça me saoule un peu quand on dit, bon, bah ça se lancera en premier sur Xbox One, ou ça se lancera en premier sur PC, ou je ne sais quoi, ou c'est une exclusivité console. Arrêtez avec vos stunts de marketeux, c'est pas une exclusivité.
Au moins,
là,
ils
pour
ont
le
sorti
coup,
le portefeuille, mais voilà. Ça me saoule plus.
Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que une exclusivité, ça nuit toujours aux joueurs, finalement. Là, au moins, c'est pas un stunt marketing, c'est une vraie exclue. Pour l'instant, en tout cas.
Dans tous les cas, un projet à surveiller, et ma foi, ça y est, Nintendo commence à montrer du muscle, donc,
ouais, c'est cool.
C'est bien.
Très rapidement, justement, je suis plutôt heureux de ce qui est en train de se passer, comme tu dis, tiens, pour Nintendo. Même pour l'avenir du jeu vidéo en général, parce que ça y est, ils ont enfin réussi, ça leur a mis 3 consoles quand même, mais ils ont enfin réussi, je pense, à trouver le truc qui fait comprendre leur démarche, qui est vraiment de, on va pas à la course à la technologie, nous on va à la course à l'expérience de joueur, et finalement le jeu vidéo c'est ça, c'est une expérience. C'est la première fois depuis très longtemps, la Wii avait essayé, mais ça s'était planté là, bien comme il faut, ça fait très longtemps que je vois une console Nintendo et me dire, ah mais c'est vraiment une console où il y aura pas que un Mario, un Zelda et puis un Mario Kart et où on va peut-être pouvoir jouer autre chose et pour l'avoir la Switch etc. L'expérience vraiment de je suis sur ma télé ou whatever et ah ça saoule et hop je débranche la console et là je peux continuer à jouer comme sur une 3DS. Ça marche, et ça marche vraiment.
Contrairement à la Wii U, justement, ça ne marchait pas.
Ou ça marchait pas, ouais. Ou tu devais quand même rester en range, tu te passais devant un mur. Enfin bon, c'était, hein. Et là, ça fonctionne, et surtout, c'est un vrai catalogue qui est en train de monter. Alors, très très RPG, hein, on va pas se mentir.
Ouais.
Mais qui colle très bien, en fait, pareil, au style de console, parce que, le RPG, c'est le jeu que t'as pas forcément envie de jouer planté sur ton canapé, ou justement, t'as envie de l'emmener avec toi, etc. Donc voilà, juste pour dire, le Nintendo Direct, je crois qu'ils ont lâché un peu du lest sur le côté, on est un éditeur japonais, on reste dans notre coin, on fait comme on a dit, il y a une ouverture quand même. Encore une fois, on recite Doom et Wolfenstein, mais le plus important, c'est pas tant les titres que Bethesda, derrière.
Et surtout des jeux qui rendent gêne, enfin c'est surtout ça moi qui me... C'est pas Skyrim quoi. Le jeu qui date de la 360, c'est bon, on y a joué à Skyrim, quoi, c'est...
C'est vrai que Skyrim, ça va, quoi, mais tu sais, voilà, mais moi, tu sais, je pense plus en termes d'éditeur, Bethesda... Désolé, j'en parlais forcément au moins une fois, mais Ubisoft avec le jeu Ubisoft Cross Nintendo, Bon, Ubisoft, c'est pas nouveau qu'ils sont très proches de Nintendo.
Corporate!
Mais... Non,
corporate.
Mais Corporate! Non, parce que, bah, c'est quand même pour l'instant que c'est la boîte qui a fait un jeu cross machin, mais il y a des boîtes, on va dire, occidentales qui s'allient à Nintendo. C'est surtout ça, moi, que je vois aussi, et que je sais, c'est pas la console qui va être que du RPG japonais, quoi. Tu vas pouvoir jouer à autre chose. C'est vraiment cette ouverture qui me dit que, eh ben, la Switch, c'est quand même tout doucement en train de gagner sa part. Tout le monde se moquait parce que, oh, bah, voyons qu'il y a 3 jeux, youpi. Bah, Nintendo s'est dit, ok, bah, alors, vous voulez des jeux, bah, on va mettre des jeux, puis, fallait faire ça depuis le début. Ben voilà. Du coup, ouais, ça marche bien. Voilà.
Mais il y a un truc qui est intéressant, et d'ailleurs, c'est sorti cette semaine par rapport à la Switch. C'est un certain nombre de développeurs indépendants qui ont sorti des jeux dont je parlais d'ailleurs la semaine dernière sur cette, l'espèce de respiration gros jeu, un gros jeu par mois, plus une ribambelle de jeux des maths. Ou pas d'ailleurs, il y a un certain nombre de développeurs qui ont communiqué, donc pas leur chiffre de vente, mais leur volume de vente sur Switch, et notamment des gens qui ont dit, moi mon jeu, il s'est plus vendu sur Switch que sur n'importe quelle autre plateforme sur laquelle il est disponible.
Bah oui, parce que sur Switch, t'as pas de concurrence, c'est ça le truc.
Oui, non, mais oui, mais c'est-à-dire que ils ont pris le volume de vente de tout, genre sur PC, machin et tout, et c'est intéressant sur le succès.
Non, mais ce que j'explique, c'est que sur Switch, t'as très peu de jeux indépendants, en fait. Donc, du coup, quand il y a un jeu indépendant qui sort, qui a un minimum de qualité, il est mis en avant. Le problème, c'est que sur Steam, des indépendants, t'en as 1000 par jour.
Ouais.
Du coup, les indépendants ont intérêt à sortir leurs jeux sur Switch, parce que ils auront cet effet qu'il y avait sur Steam, tu sais, à une époque, où c'était difficile d'accéder à Steam, où ils seront mis en avant. Alors que la PS4, la Xbox One, et le PC, tous les indépendants sortent leurs jeux sur ces trois plateformes. Donc là, il y a une place au soleil à se faire, entre guillemets.
Exactement. Quoi. Et donc, pour les jeux, c'est donc Wonderboy The Dragon's Trap, Oceanhorn et Death Squared. Donc, intéressant à noter aussi sur le succès de la Switch par rapport à son public et aussi pour la place que les développeurs peuvent y retrouver.
Ok. Bon, on va enchaîner, messieurs, et on va parler d'Electronic Arts, qui nous parle de sa vision de l'avenir du jeu vidéo. Alors, je vais essayer de la faire courte. Tout simplement, la vision d'Electronic Arts, c'est quoi ? C'est le streaming. Ils ont fait des tests récemment d'une nouvelle techno pour jouer à Battlefield, notamment, je crois, en streaming. Et ils expliquaient, en gros, que pour eux, il était temps que le jeu vidéo suive l'exemple de la musique et du cinéma et qu'il y ait du streaming. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, d'un point de vue technologique, tout ça? Est-ce que ça vous paraît réaliste? Parce que je rappelle quand même que le problème du streaming dans le jeu vidéo, c'est que bon, le jeu vidéo, contrairement au cinéma et à la musique, bah, c'est interactif. Et donc, il y a tous les problèmes de latence, tout ça. Et puis aussi le souci de, un jour, il y a Free qui vient te voir et qui te dit, ah, en fait, si tu veux pas que ton jeu y ralentisse, il va falloir que tu donnes des sous, tout ça. Ce qui arrive régulièrement, hein, on le sait, en France. Donc, voilà. Qu'en pensez-vous?
Moi, ça me fait penser à au PC Shadow qui s'est lancé cette année. Alors moi, j'ai jamais testé, hein, mais sur quel support en fait fonctionne le streaming ? C'est-à-dire qu'il faut quand même que t'aies une boîte chez toi. Donc j'imagine que ça va être la console dont parle Electronic Arts. Donc ça va probablement être une Xbox One, une PS4 ou un PC. Qu'est-ce qui réceptionne le flux ? Sur quelle qualité il le réceptionne ? Et combien de latence tu peux attendre?
Et quelle connexion il faut, surtout?
Exactement. On n'est pas tous égaux voilà, face à la connexion.
Surtout aux États-Unis.
Exactement. C'est quand même un marché immense. Mais même dans des pays qui sont, pour le coup, très bien raccordés, comme la France, par exemple, on a des disparités qui sont énormes.
Par exemple, moi, je suis dans le 9.3, je peux vous dire que j'ai pas la même connexion que Mandren, non?
Ouais. Donc, c'est compliqué. C'est un vieux serpent de mer, j'ai l'impression aussi, hein, le streaming dans le jeu vidéo. Est-ce que un jour, il y aura quelqu'un qui réussira à trouver la techno qui est universelle et qui marche partout? Moi, j'ai bien envie de voir, hein, mais ça me fait toujours douter, sur le principe, en tout cas.
Pixel, Mamie, je ne sais pas.
Comment dire? C'est clairement quelque chose vers lequel va se tourner pas mal de monde, je pense. Il y a eu des commentaires à l'article, notamment intéressant à ce niveau-là. C'est une analyse, une contre-analyse en fait, qui dit que, bah, effectivement, les gens se basent sur Netflix, le succès de Netflix, etc., pour dire, en fait, les gens ce qu'ils veulent, c'est du streaming, c'est du on-demand, c'est tout de suite là, à peu près n'importe où. Le PC Shadow, ça permet entre guillemets d'avoir tout l'intérêt d'un gros PC sans avoir à se casser la tête à mettre à jour. Il y a des services qui font ça aussi, des streaming vers des PC que eux-mêmes mettent à jour et compagnie. Le truc, c'est que donc la contre-analyse disait, et c'est pas faux, que le streaming, ça a marché pourquoi ? Et la vidéo à la demande à la Netflix, parce que il y avait des contraintes horaires sur la télé. Chose qu'il n'y a pas dans le jeu, vu que tu lances.
Tu vas sur Steam, tu télécharges ton jeu et point quoi. Et a priori, si t'as la connexion pour streamer tel ou tel jeu, le jeu tu peux le télécharger en 5 minutes sur Steam. Donc,
ouais, non, mais c'est ça. Alors oui, il y a toujours ce même problème qui va devenir gênant, qui est de l'espace.
Oui, c'est vrai.
Bon, cela dit, d'ici à ce que on ait tous 80 téra de données, encore un. Pas tant, mais un peu de marge. Moi, ce qui m'embête aussi, plus, c'est plutôt la bande passante. Internet, on a l'impression comme ça que c'est magique et tout, mais c'est pas illimité, hein. Et on commence déjà à avoir peur en termes de flux de données.
Oui.
On va atteindre vite une limite, quoi.
Bah, surtout que, en plus, normalement, Internet, je rappelle, c'est censé être un réseau accentré et qu'on a créé des centres artificiels avec des points de congestion pas possibles et qu'on sait pas comment on va les gérer. Donc, voilà.
Bon, voilà, c'est plus ça, moi, qui me fait peur parce que, et le jeu, c'est pas Netflix. Rien que par le fait que, même si ça a l'air bébête dit comme ça, au lieu d'avoir seulement l'image, vous allez renvoyer des inputs.
Mmh.
Et rien que ça, ça a l'air bête.
Il y a un aller-retour.
Oui,
ouais.
C'est ça. Et, donc en termes de technique et tout, ça me fait peur parce que ça, encore une fois, client serveur, je suis assez bien passé pour savoir que c'est vraiment compliqué là. Et en plus, en termes d'expérience de joueur, comme disait Tyran, la latence, etc. Enfin, ça peut être dramatique.
Ah, Rainbow Six Siege avec de la latence, ça va être très drôle là.
Non mais oui, non mais attends. C'est... Et moi, ce que j'ai peur, ce qui risque d'être entre guillemets dramatique, c'est l'effet que souvent les éditeurs ont. Ah bah, imaginons, le pire, c'est que ça marche. Bah, les gens qui ont pas la connexion, ils peuvent pas se dire, bon, c'est pas grave, je vais acheter un CD. Une boîte de jeux PC, ça fait des années que j'en ai même pas vu une. Si ça devient la norme, bah, il va y avoir tout un pan, tout un public qui va juste...
Ah, moi, j'arrête le jeu vidéo, hein, je vous dis tout de suite, hein, je peux pas. Avec ma connexion, c'est pas possible.
Sans compter le côté légal très bizarre qu'on a déjà avec Steam, qui est, bah, les jeux, ils sont plus à toi. Hein. C'est, ouais. T'y as accès.
Bah après, dans un monde idéal, t'aurais les deux systèmes qui coexisteraient.
Oui, mais ça
marche pas. Tu pourrais télécharger tes jeux, mais on sait que dans le jeu vidéo, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors que dans les autres médias, ça marche comme ça, hein, mais pas dans le jeu vidéo.
Ouais, c'est cette notion de... c'est pas à toi. Ce qui est pas gênant, on va dire, je pense, hein, qui n'est pas gênant dans le terme de... Pour Netflix, par exemple, parce que c'est des séries, etc. Il y a des gens qui aiment bien avoir leur DVD. Il y a un rapport fort avec ça, mais il y a un rapport, je pense, moins fort que le jeu vidéo.
Ouais.
Ça a l'air con, genre, j'ai hâte d'être un super vieux gars, mais je vous rappelle que j'ai 26 ans, mais c'est le fait de plus avoir de boîtier avec mes jeux PC dedans, comme le fait de plus avoir, tu sais, le livret d'instruction, ça n'existe plus non plus, mais c'est tous ces trucs-là, parce que finalement, il y a Internet, et puis après, on va pas se casser les pieds. Le livret, je peux comprendre, encore, c'est tant mieux, ça fait moins d'arbres à couper, quoi. Mais, pour ce qui est de la boîte, même si effectivement, d'un côté physique, tant mieux, bah de l'autre côté, il y a tout ce côté en fait appartenance qui n'est plus là, quoi. Steam, j'ai 246 jeux, mais si demain Steam décide que j'ai plus 246 jeux, tous les dollars que j'ai pu dépenser dedans, bah je peux bien me les mettre là où je pense et puis c'est fini, quoi.
Sur GOG.
Voilà, GOG, c'est l'alternative effectivement.
Ouais, mais bon, l'alternative où ne vont pas les gros éditeurs parce que ils en veulent pas. Donc
oui, non, mais c'est normal. Voilà. Mais enfin bon, vous avez compris l'idée.
Bon, qu'est-ce que vous ajoutez, Pixel, ou on passe à la suite?
Bah, le tout dématérialisé, moi je dis non, hein. Faut pas que ça arrive. Jamais. Bah, jamais, c'est... jamais.
Je pourrais te rétorquer, Pixel, que c'est déjà le cas sur PC.
Les jeux sortent encore en, ouais. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est que les jeux sortent encore en boîte.
T'as l'installeur de Steam dans la boîte, quand même, hein. Je te rappelle. En général.
Ouais.
Pour 99%. Ils sont en boîte, mais pas ouais. Vraiment, quoi.
Mais non, il faut pas que ça arrive, comme Mamie l'a dit, les jeux déjà ils nous appartiennent plus trop vraiment, quoi. Enfin, c'est chelou au niveau de la législation pour les jeux dématérialisés, donc j'ai pas envie que ça arrive. Il faut pas que ça arrive.
C'est con, hein. On serait dans un monde raisonnable, tu vois. On aurait le choix, en fait. Tu veux ton jeu en streaming, tu l'as en streaming. Tu veux le télécharger sur Steam, tu le télécharges sur Steam. Tu veux en boîte, mais non, ça marche pas comme ça. Ah oui, et dernier point que je voulais soulever. J'ai hâte de voir la réaction des fournisseurs d'accès si ça prend son essor. Ça sera très très drôle, je pense, parce que déjà là, pour suivre pas mal ce genre de choses, les fournisseurs d'accès, la neutralité du net, ça les emmerde un peu beaucoup même. À mon avis, si t'as ce genre de service qui se met en place, que ça boude dans la pente passante, les fournisseurs d'accès, ils vont dire, vous vous rendez compte des investissements qu'on va devoir faire pour supporter ce genre de choses? C'est pas possible. Donc soit vous payez, soit, en tout cas, il va falloir qu'on fasse quelque chose là, parce que ça marchera pas comme ça. Donc ça va être très très drôle, je pense. Bref, voilà. On va terminer, messieurs, sur le review bombing.
Ouais.
Alors, on a eu cette semaine une réaction du président de Funcom qui disait que, en gros, son jeu se faisait review bomber en Chine parce qu'il avait des serveurs moisis et que il aimerait bien que les reviews soient régionalisées, si tu veux. Au moins, le consommateur, il voit la review qui correspond à ce qui se passe chez lui, quoi. C'est-à-dire que en Europe, il n'y a pas de problème de serveur, donc il voit des reviews positives. Par contre, le joueur chinois, il voit que une review à 20% d'avis positifs parce que les gens sont pas contents. Bref, comme ça, ça ne pénalise pas son jeu. Et donc, il expliquait aussi que je sais bien que Valve, ils ont des grosses responsabilités, etc. Mais s'il vous plaît, si vous vouliez régionaliser les reviews, ça serait cool. Voilà. Sachant qu'en plus, il y a eu plusieurs polémiques récemment vis-à-vis du review bombing, il y a eu l'affaire PewDiePie où PewDiePie a encore fait une connerie sur son stream, hein, comme d'habitude. Suite à quoi, un développeur a utilisé le strike sur YouTube pour le sanctionner, tout simplement, parce que voilà. Suite à quoi, les viewers de PewDiePie sont allés faire du review bombing sur Firewatch parce que c'était le développeur de Firewatch. Il y a eu aussi l'affaire Divinity Original Sin 2 qui est sorti, qui n'avait pas les traductions disponibles, que ce soit en français, en allemand, en russe. Du coup, les gens sont allés le review bomber. La note du jeu sur Steam a fait le yo-yo, c'est-à-dire qu'elle est passée de 95 à 87 en quelques heures, en 2-3 heures, c'était réglé. Et puis, ils ont sorti un patch bêta des traductions, et du coup, les reviews sont remontés à 93. Donc, donc on voit que le review bombing en ce moment est très actif. Et du coup, ben, je voulais vous poser cette question. Est-ce que il faut faire quelque chose, déjà? Et si oui, que faut-il faire?
Je vais donner l'avis...
du premier concerné?
l'avis d'Ev. Qui va être étonnamment... étonnant pour vous.
Bah, vu ce que t'as dit la dernière fois, je pense que j'ai pas été étonné, mais...
Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on a, justement, le dernier podcast où j'étais, on avait déjà parlé de ça.
Ouais.
Mais, non. Ça m'embête pas. Alors, la dernière fois, rapidement, l'argument principal que j'avais donné, c'était que les reviews n'agissent pas forcément énormément sur les ventes. Mais encore une fois, je tiens à modérer ce propos-là. Maintenant, avec du recul. Je parle en tant quand même que développeur chez Ubisoft. Entertainment, qui n'est pas non plus le petit développeur indé qui sort son jeu, qui de base, parce que nous il y a la street cred qui fait que de base on va la vendre la galette, enfin c'est plus la galette, mais on va vendre le jeu, c'est sûr. Divinity, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont la street cred Divinity, on sait tous que Divinity c'est excellent, il y a eu l'early access, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit que c'était génial. Bon, le review bombing a quand même une moindre importance dans ces cas-là.
Et puis, en général, Divinity, enfin, tu vois, ils ont été super réactifs, quoi.
Ouais.
Ils ont vu que les notes baissaient. Ah, bah, ok, on vous met le patch.
Je pense vraiment pas que c'était une réaction de peur face aux notes qui descendaient. C'était une réaction face aux notes qui descendaient.
Oui, mais ils se sont dit, ah, bah, ok, vous, parce qu'au départ, ils ont justifié le fait qu'ils préféraient attendre pour avoir une traduction propre à la sortie. Et ils ont dit, du coup, si vous préférez qu'on vous mette les traductions tout de suite, il n'y a pas de souci.
Et, entre guillemets, j'aurais été d'accord, parce que pour y avoir joué un peu à Divinity, tu sais, en plus, moi, je suis le genre de casse-couille qui lit tout le lore.
C'est de l'anglais très littéraire, apparemment. Hein.
Alors donc, oui, mais en fait, je l'ai en français, là, sur ma machine. Je lis un peu, page suivante, boum, en anglais. Et tu sens qu'en fait, bah, tu vois, c'est la seule chose qui m'embête avec le review bombing, c'est pas tant les conséquences que les implications que ça a, qui est qu'en fait, encore une fois, de plus en plus, les joueurs, et quand je dis les joueurs, c'est pas seulement les gens en général, hein, ça peut être sur d'autres choses que le jeu, se comportent de plus en plus comme des enfants pourris gâtés à qui il faut tout de suite. Et ça marche dans le cinéma, hein, ça marche même dans les séries.
Cela dit, je pourrais te rétorquer, Mamiemi, dans le cas de Divinity, que bon, il y a quand même des gens qui ont financé un Kickstarter.
Ah oui.
On leur a promis des traductions. Ils sont quand même en droit d'attendre un produit fini comme les Anglais. parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bons en anglais. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans le débat. Le fait est qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes à l'école avec l'anglais, etc. Et si tu veux, ce qui me gêne dans ce débat en général, c'est qu'on dit ouais connard, t'as qu'à apprendre l'anglais. Bah ouais connard, non. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de grandir dans un environnement où il y a eu suffisamment d'éducation, tu vois, pour apprendre l'anglais. Parce que moi aussi, j'ai appris l'anglais en jouant au jeu. Mais il se trouve que j'ai grandi dans un milieu suffisamment aisé pour avoir une certaine éducation qui m'a permis d'apprendre l'anglais tout seul, en fait.
Ouais, et puis il y a différents types d'anglais aussi.
Et même moi, qui suis comme ça, Divinity, je vais jouer en français, hein, parce que j'ai vu l'anglais, le niveau d'anglais qui est demandé. Alors, je pourrais y jouer en anglais, mais c'est quand même de l'anglais velu, et je sens que si j'y joue, tu vois, je vais ressortir de là, ma tête, ça va être un ballon.
Non, ouais.
Et du coup, Kiral, ça me choque pas. Par contre, mettre une mauvaise review, enfin mettre une non-recommandation, parce que fondamentalement, je rappelle que le système de cible, c'est une recommandation, à un jeu parce qu'il a pas le français, ça me gêne un peu plus, déjà.
Je comprends l'argument, etc. Mais quand le développeur te dit « On est en train de bosser dessus, c'est pas final, on veut vous rendre une meilleure version », quand les devs disent ça, c'est pas juste « On fout rien et on a envie de le sortir plus tard, lol », c'est vraiment « On est en train de travailler dessus pour le rendre meilleur ». En tout cas, il y en a qui font ça. Et je pense que Divinity, vu le degré de polish du bousin, ça a l'air d'être des mecs qui sont quand même bosseurs plus que des roublards, quoi. Et ces trucs de « Non, moi, je veux ça tout de suite !» Moi, j'ai ressenti comme ça. « Moi, je veux ça tout de suite !» Ok, bah écoute, bah, prends-le, ton machin. Et finalement, bah, c'est pas bien fini, quoi.
Ouais, mais si tu veux, il y a des gens qui préfèrent avoir un truc pas bien fini, en fait, parce que l'early access, c'est devenu une norme, plutôt que ne pas pouvoir y jouer. Alors que si tu veux, par exemple, il y a des gens tout bêtement qui bossent, tu vois, et que si ça se trouve, ils pouvaient y jouer là. Mais en fait, c'est pas genre la semaine prochaine qu'ils pourront y jouer, c'est dans 3 semaines. Et je comprends le gars qui dit, bah écoutez, moi je préfère avoir un patch bêta mal traduit que ne rien avoir du tout et pas pouvoir y jouer parce que je biterai rien du tout à ce qui
c'est
se passe.
C'est
le même
gars qui, 2 jours plus tard, vont dire, oh lol, les traductions...
Justement, là. Moi ce que j'ai constaté dans les commentaires Sims, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé leur review suite à ça. Pour dire, ah bah, le génial, le patch est arrivé, tu vois. Après, il y a toujours des roulous, effectivement, qui sont dans ce cas-là. Mais je pense que c'est pas le cas de la majorité, en tout cas.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, juste pour revenir sur le principe général rapidement, mon avis aussi. Donc, je pense pas que ce soit si grave, le rebombing. Et je pense qu'au contraire, comme tu dis, c'est de toute façon, c'est une suggestion. Hein, c'est pas une sentence, là. Je me rappelle, tiens, bah, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, t'as toujours eu une catchphrase, plus ou moins, c'est votre jugement, vous le faites avec votre portefeuille.
Mmh.
Et là, je trouve que c'est une alternative potentielle, vu que de toute façon, le jugement portefeuille, ça fait suffisamment longtemps maintenant qu'on est dans le milieu pour savoir que ça marche pas vraiment.
Ouais, parce que les gens ont une volonté faible, c'est ça, dirons-nous.
Par contre, effectivement, c'est quand même plus simple, alors j'ai toujours trouvé ça très drôle, mais c'est quand même plus simple d'aller dans un système de notes comme ça et de pourrir une note, plutôt que de pas acheter un jeu, apparemment. Donc, s'ils peuvent s'exprimer comme ça, parce que moi, je trouve qu'en plus, sa nuance d'expression qui est plutôt pas mal, c'est « J'ai acheté ton jeu parce que j'avais vraiment envie d'y jouer, et je suis déçu, donc je fais ça. » Le côté très grégaire du bombing général, pas la PewDiePie, mais plutôt comme sa communauté, hein, faut quand même voilà, décorréler les deux, là, c'est quelque chose que je trouve très... bon.
Nuisible.
Très nuisible, et surtout... si je peux me permettre un jugement, ça fait très mouton. Du coup, c'est pas forcément très intelligent, par définition, là. Est-ce que ça a vraiment fait du mal au gars de Firewatch, vu que de toute
Moi,
façon...
Moi, j'ai l'impression que ça lui a fait plus de pub qu'autre chose, hein, mais...
Ouais, mais c'est ça, parce que... La...
On est à une de toute façon, le jeu est rentabilisé, hein, donc c'est bon.
Oui, c'est ça. Et en plus, Steam a quand même un système de protection, entre guillemets, plus ou moins là-dessus, qui est quand même que tu vois les notes globales et les récentes. Si t'as une décorrélation énorme de genre... extrêmement positive, ah, c'est vraiment de la merde. Les gens, quand même, à un minimum, l'acheteur, qui est quand même sur la page, qui est intéressé, du coup, va se dire, ah bon, il va lire 2-3 évaluations. Et souvent, comme le review bombing, en plus, est mal fait, souvent les gens, ils sont là, lol, lol, ça me plaît pas. Et tu sais, on voit que les mecs ont même pas acheté le jeu, parce qu'en plus, ça aussi, c'est bien foutu. On voit que les gens, s'ils ont acheté le jeu, s'ils y ont joué, combien de temps, etc. S'ils l'ont eu gratuitement, même. Du coup, on va dire l'utilisateur un peu plus expert que la moyenne va quand même pouvoir s'en sortir et comprendre que c'est un vieux caprice, quoi. Donc moi, ça m'embête pas du tout.
Et puis, de toute façon, je veux dire, je vois pas comment tu pourrais résoudre ce problème. C'est-à-dire que si tu te mets à régionaliser les reviews, par exemple, ce que propose le dev de Valcom, ça pose un gros problème parce que il y a des jeux, par exemple, que moi je repère parce que il y a suffisamment de personnes qui ont mis une review très positive dessus. Et je me dis, tiens, c'est étrange. Ce jeu, il sort nulle part. Il y a une centaine de personnes à peu près qui a dit qu'il était cool. Donc moi, c'est à partir de la centaine que je commence à dire ça, le système est pertinent. Parce que en dessous, si tu veux, le souci, c'est qu'il suffit qu'un mec mette une mauvaise note pour que tu passes de 95% à 80%, tu vois. Enfin, c'est ça pose un problème. Le truc, c'est que pour qu'un jeu apparaisse sur mon radar à moi, qui suis un acheteur qui ose acheter des jeux qui sortent de nulle part, j'ai besoin qu'il y ait un minimum de review pour me dire « Ok, c'est pertinent et je peux l'acheter pour tester, tu vois. » Et le problème, c'est que si tu te mets à régionaliser et donc à cacher les reviews de certaines zones, bah du coup, le jeu il va pas apparaître sur mon radar parce que je dirais il a que 25 reviews ou même pire, il a 0 review en France. Et c'est pas fiable, en fait. Je peux pas me fier à ça, donc je peux pas prendre le risque d'acheter ce jeu-là, parce que je n'ai pas assez de données, en fait, pour le repérer. Il y a plein de jeux que j'ai repérés comme ça. Par exemple, IC, dont je vous avais parlé, qui est pour moi une des belles surprises de l'année dernière. Je ne l'aurais jamais repéré s'il avait fallu que je me base uniquement sur les reviews françaises, voire même européennes. Il faut absolument que les reviews restent mondiales. Comme ça, j'ai moyen de savoir que, ah tiens, il y a ce truc qui monte là, ça a l'air intéressant. Déjà, je suis même pas sûr que ça rendrait service au gros, parce que ça voudrait dire que, imagine, tu es dans le cas de l'Ariane, tu sors une traduction toute pourrie en France. Tu t'es fait chier à faire une traduction quand même, tu l'as payé. Donc ça veut dire que pour les reviews en France, tous les joueurs français vont voir que le jeu a une traduction moisie, ça va encore plus mettre en avant ce problème sur le jeu en France. Donc t'auras un jeu qui aura, allez, 20% de reviews positives en France. Donc personne va l'acheter en France, tu vois, déjà. Par contre, si tu as un système de review global, alors certes, les joueurs français vont râler, mais t'auras le matelas, on va dire, des reviews mondiales, qui va amortir ce truc-là, et qui va dire, ok, le jeu, peut-être, il a des mauvaises reviews en France, mais en tout cas, c'est un bon jeu, parce qu'il est bien noté, par ailleurs. Et je suis pas sûr que abandonner ce système de review global pour ça soit très positif pour les studios, même les gros studios, tu vois. Alors, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre la possibilité de trier la review globale en fonction du pays.
Oui.
Mais que ça soit optionnel. Ça me paraît très intéressant. Voilà. Quelque chose à ajouter, messieurs ?
Oh non, je pense qu'on est bon, là.
Bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous !
Salut tout le monde !
Salut tout le monde !
Salut !